VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Morgane Guiriec avec vous, il est 18h30, temps universel, minuit et demi à Libreville. Au sommaire de ce 6 février 2017, remaniement ministériel au Tchad, plusieurs nouvelles personnalités entrent au gouvernement. G5 Sahel, les présidents réunis à Bamako insistent sur l'urgence d'une riposte coordonnée aux djihadistes. Présidentielle en France, le candidat de droite François Fillon reconnaît avoir commis une erreur en embauchant sa femme et ses enfants comme collaborateurs. Et puis, Coupe d'Afrique des Nations, la sélection camerounaise a pris sa revanche sur l'Égypte. Remaniement ministériel au Tchad, plusieurs nouvelles personnalités entrent au gouvernement, dont le cinéaste Mahamat Saleh Haroun et l'actuel ambassadeur du Tchad en France. Les détails avec Arzouma Compaoré.
Le nouveau gouvernement compte désormais 38 membres, 28 ministres et 10 secrétaires d'État. Les ministres de la Défense et de la Sécurité intérieure restent les mêmes. La grande surprise, c'est l'arrivée du cinéaste Mahamat Saleh Haroun, qui s'est vu confier le ministère du Développement touristique, artisanal et culturel. Lui qui a présenté à Cannes cette année un documentaire sur le prédécesseur d'Idriss Déby, intitulé Hissène Habré, une tragédie tchadienne. Moussa Faki Mahama, élu président de la Commission de l'Union africaine, quitte le ministère des Affaires étrangères. Il est remplacé par Hissène Brahim Taha, actuel ambassadeur du Tchad à Paris. Le ministère des Finances est confié à Christine George Djigibaye, fonctionnaire à l'Union africaine à Addis Abeba. Le ministère de l'Économie et de la Planification du Développement revient à Ngueto Yambaï, ancien fonctionnaire du FMI.
Les présidents des cinq pays du G5 Sahel se sont réunis à Bamako aujourd'hui. La création d'une force militaire commune a été entérinée. Claire Morin-Gibourg.
Pour éviter que le Mali devienne de façon durable une base de repli des djihadistes, la création d'une force militaire commune a été décidée entre les cinq pays. Aucun détail n'a filtré pour le moment. Impossible de savoir combien de militaires composeront cette force et où seront-ils basés. Les états-majors des cinq pays vont se réunir à ce sujet prochainement. Seule certitude, c'est le président malien Ibrahim Boubacar Keïta qui prend la tête du G5 Sahel pour les deux prochaines années. Ibeka qui a déclaré à la tribune « Face à la montée de l'extrémisme, il faut la mutualisation des efforts pour relever les défis. Nous devons aller plus loin pour réaliser le Sahel de la défense », a souligné le président malien. Le 24 janvier dernier, le Niger, le Burkina Faso et le Mali avaient entériné la création d'une force commune pour lutter contre l'insécurité dans la zone du Liptako-Gourma, à cheval sur les trois pays.
Et au Mali toujours, les syndicats de l'éducation sont en grève depuis ce matin dans le Nord. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
La grève des enseignants qui a débuté ce matin concerne tous les syndicats de l'éducation dans les régions de Gao, Tombouctou, Menaka et Taoudeni. Quelles en sont les raisons? Hamadoun Abdoulaye, secrétaire général du SNEC, bureau de Gao.
Pendant la crise au Mali 2012, l'État a octroyé à tous les travailleurs 250 000 francs. Tous les secteurs ont pu trouver l'intégralité de 250 000, sauf au niveau de l'éducation. Deuxième point est l'intégration. Nous avons des camarades de 2002 à nos jours, sont toujours contractuels. Nous avons constaté aussi que les camarades qui travaillent ne sont pas avancés. Alors que la loi nous dit que tout travailleur mérite un avancement chaque 2 ans. Nous avons nos camarades du secondaire qui ont des heures supplémentaires et n'ont pas pu toucher ces sous. Donc c'est tous ces points-là qui nous ont poussés à déposer un préavis. L'État ne nous a pas appelés.
La grève a été bien suivie. Aucune école publique n'a fonctionné dans la ville de Gao ce matin. Les syndicats de l'éducation menacent d'arrêter le travail si leurs revendications ne sont pas satisfaites d'ici vendredi prochain. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Et des limitations de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Une série d'audiences publiques s'est ouverte en Allemagne devant le Tribunal international du droit de la mer. Les débats se poursuivront jusqu'au 16 février. Le Ghana et la Côte d'Ivoire se divisent sur le tracé de leur frontière maritime qui traverse un gisement de pétrole offshore que les deux voisins souhaitent exploiter. Les chômeurs ont faim et sont en colère, pouvait-on lire aujourd'hui sur des pancartes devant le stade de Lagos au Nigeria. Des centaines de personnes manifestaient contre la politique économique du gouvernement. D'après l'AFP, ils demandent des solutions à la récession qui frappe le pays. À noter aussi que le président nigérian Muhammadu Buhari a repoussé son retour de vacances au Royaume-Uni pour raisons médicales. Migration vers l'Europe, les ministres des Affaires étrangères des 28 pays de l'Union européenne somment les autorités libyennes de redoubler d'efforts pour faire respecter les droits des migrants dans les centres de détention. Migration vers l'Europe toujours, 18 personnes ont franchi la clôture séparant le Maroc de l'enclave espagnole de Melilla, c'est ce que rapporte la préfecture locale. Une manifestation a tourné au vinaigre dimanche dans le nord du Maroc. Des échauffourées ont opposé protestataires et forces de l'ordre à Al-Hoceima. Bilan, une trentaine de blessés. La ville avait connu en 2016 une vague de manifestations populaires après la mort d'un vendeur de poissons, Mouchine Fikri, broyé dans une benne à ordures le 28 octobre.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, ici aux États-Unis, la bataille entre partisans et opposants du décret du président Donald Trump sur l'immigration se poursuit. Près d'une centaine d'entreprises de high-tech, dont Facebook, Google, Microsoft, Twitter et Apple, ont déposé une plainte en justice contre ce décret qui a été suspendu depuis vendredi. L'administration Trump assure que sa décision s'explique par des considérations d'intérêt national. Jacques Aristide.
Dans une lettre adressée à la Cour d'appel fédérale de San Francisco, les géants de la Silicon Valley dénoncent les dommages causés selon eux par le décret, apportant leur soutien à la procédure en cours pour contrecarrer son application. Ces entreprises affirment que le texte présidentiel marque un important écart par rapport aux principes qui ont régi le système de l'immigration aux États-Unis depuis plus de 50 ans. Un groupe de personnalités du Parti démocrate, dont les ex-secrétaires d'État John Kerry et Madeleine Albright, demandent également à cette cour d'appel de poursuivre le blocage du décret qui, disent-ils, est mal conçu, mal mis en œuvre et mal expliqué et porte atteinte à la sécurité nationale. Les ressortissants des 7 pays visés, Iran, Irak, Syrie, Libye, Somalie, Soudan et Yémen, peuvent entre-temps entrer aux États-Unis s'ils sont munis d'un visa valide après la suspension temporaire de la décision sur l'ensemble du territoire américain par un juge fédéral de Seattle. Ce jugement qui a ensuite été maintenu par la Cour d'appel en attendant les arguments supplémentaires de l'administration Trump. Sur Twitter, le président américain a critiqué la décision de la justice, je cite, « n'arrive pas à croire qu'un juge mette notre pays en pareil péril. Si quelque chose arrive, tenez-le pour responsable, ainsi que le système judiciaire. » Fin de citation.
Présidentielle en France, le candidat de droite François Fillon reconnaît avoir commis une erreur en embauchant sa femme et ses enfants comme collaborateurs parlementaires. Il a présenté ses excuses aux Français. Il rappelle toutefois que ces faits sont légaux. Conflit en Syrie, le groupe État islamique est désormais complètement assiégé dans la ville d'Al-Bab. Les djihadistes sont visés par une double offensive dans leur dernier fief d'Alep. Depuis près de 2 mois, Al-Bab est dans la ligne de mire des rebelles syriens, appuyés par les troupes turques. Mais récemment, les troupes du régime de Bachar al-Assad, soutenues par la Russie, ont lancé une offensive pour capturer cette ville symbolique. Et c'est dans ce contexte que l'Organisation des Nations Unies lance un appel aux dons pour lever quelque 3,5 milliards de dollars destinés à financer son plan d'aide aux réfugiés syriens en Turquie pour les années 2017 et 2018. Sachez enfin qu'au Proche-Orient, l'armée israélienne a frappé une position du Hamas dans la bande de Gaza aujourd'hui. Représailles à un tir de projectile en provenance du territoire palestinien. Plus tôt dans la matinée, c'est ce qu'indiquent les autorités. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est l'heure de la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Dili Dico.
Une nouvelle espèce de chenille originaire des Amériques et récemment introduite en Afrique dévore les champs et se propage rapidement sur le continent, risquant de constituer une menace majeure pour le commerce agricole africain, voire mondial. Une enquête confirme aujourd'hui sa présence au Ghana. L'analyse des chenilles prélevées dans trois régions du Ghana montre qu'il y a deux espèces qui attaquent essentiellement le maïs. Elles menacent aussi le riz, l'arachide, le coton, entre autres. Le Maroc a adressé une sévère mise en garde à l'Union européenne, l'appelant à mettre pleinement en œuvre l'accord agricole avec le Royaume. Signé en 2012, cet accord de libre-échange sur les produits agricoles et de pêche avait été invalidé en 2015 par le tribunal de l'Union européenne après un recours du Front Polisario contestant l'inclusion du Sahara occidental dans le traité. En Côte d'Ivoire, la filière cacao est actuellement envahie par la fraude à la certification. Les exportations de fèves labellisées par des organismes de développement durable ont explosé en volume, mais l'origine de ce cacao dit certifié n'est pas toujours connue. Selon le dirigeant d'une société d'exportation de cacao ivoirien, près de 50% du cacao certifié serait frauduleux, un chiffre repris par le président du syndicat national des agents du prix en Côte d'Ivoire.
C'était la Minute Éco, l'actualité économique en Afrique et ailleurs, présentée par Dili Dico. Plein feu sur les stades, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
La nuit a été courte pour les Lions Indomptables, sacrés champions d'Afrique de football.
Les Camerounais sont rentrés cet après-midi à Yaoundé, un retour triomphal au pays après leur succès 2-1 hier en finale à Libreville contre l'Égypte. Cinquième titre continental pour le Cameroun, battu en 84 et en 2008 par l'Égypte dans cette même finale de la CAN. Le Cameroun qui tient donc sa revanche. Cette équipe composée de jeunes joueurs après le forfait de dernière minute de plusieurs cadres a donc su déjouer les pronostics, comme l'expliquait hier soir le président de la Fédération Camerounaise de Football, Tombi Aroko Sidiki.
L'esprit lion est de retour et cet esprit doit régner, rester. Parce que même en étant hors des pronostics de tous les spécialistes, on l'a fait. Dieu merci. Le Cameroun est un pays de football. Ça voudrait dire qu'il y en a qui peuvent être indisponibles pour des questions de blessures, de suspension. Ce qui est important, c'est qu'on soit capable de trouver 23 autres gaillards susceptibles de représenter le Cameroun. Et c'est ça qui est important. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que hier, certains de nos compatriotes, pour des raisons diverses, n'ont pas pu répondre à l'appel. Moi, je ne leur jette pas l'opprobre, parce que je l'ai déjà dit, je suis le père de tous les footballeurs camerounais. Et donc, aucune sanction, aucune, parce qu'il reste des Camerounais à part entière. Et il va falloir rediscuter avec eux, essayer d'évaluer leur motivation à revenir jouer pour le Cameroun. Parce que la porte reste ouverte, c'est des Camerounais à part entière qui n'ont pas perdu leur nationalité.
Le président de la FECAFOOT, Tombi Aroko Sidiki.
Un mot de NBA, championnat de basket nord-américain.
Pour la première fois de sa carrière, Paul Pierce s'est rendu hier à Boston avec ses Clippers de Los Angeles. Mais ce sont les Celtics qui se sont imposés 107-102. De son côté, Russell Westbrook continue d'affoler les statistiques. Il a marqué hier 42 points lors de la victoire d'Oklahoma City face à Portland, 105-99. Enfin, Toronto a renoué avec la victoire en s'imposant à Brooklyn, 103-95.
Merci Nicolas. Voilà les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas Pineau que l'on retrouve un petit peu plus tard dans Sporama.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Morgane Guiriec en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. La 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations s'est achevée dans l'euphorie hier soir à Libreville, où, comme vous le savez, la sélection camerounaise a pris sa revanche sur l'Égypte et a mis fin à une disette de 15 ans en championnat continental. Au micro de Gaby Dorsil, notre envoyé spécial à la CAN 2017, Timothée Donangmaï a partagé ses impressions sur divers aspects de la compétition.
Une réalité qui m'a frappé ici, et c'est ce que beaucoup de gens m'ont expliqué, c'est que les gens vont tard au stade. Et c'est dû au fait que le Gabon ne soit pas un pays très peuplé, contrairement à des pays comme le Cameroun, où les gens commencent à aller au stade très tôt le matin parce qu'ils risquent de ne pas avoir de place. Eh bien, ici, les gens savent que même à n'importe quelle heure, ils auront une place au stade. Si bien que les gens arrivent tard et avec le début du match, les gradins se remplissent. Et à la fin de la partie, on a une foule assez importante. Donc, à l'exception du match de Zimbabwe-Tunisie, de la phase de groupe, où il y a eu seulement 2000 spectateurs. Et ça, c'était juste après l'élimination du Gabon. Donc, à part ça, on a eu toujours des foules dans les stades.
La compétition s'est déroulée de façon relativement paisible.
Tout à fait. On avait eu beaucoup de préoccupations à ce sujet. L'opposition et les associations de la société civile ayant appelé au boycott de la CAN en disant que le gouvernement a d'autres priorités auxquelles consacrer les fonds publics. Eh bien, c'est comme s'il y a eu une entente tacite entre les partis en conflit aussi au Gabon, puisque tout s'est passé tranquillement. Il n'y a pas eu d'inquiétude du tout de ce côté-là.
Est-ce donc une victoire pour le gouvernement?
Assurément. Tout s'est très bien passé. La cérémonie de clôture s'est passée devant un stade de l'amitié comble. Et la finale Égypte-Cameroun a été, comme vous savez, un grand succès. Donc, je pense que le gouvernement peut raisonnablement se féliciter de la façon dont les choses se sont passées, surtout compte tenu des inquiétudes du début de la compétition.
L'opposition a fait valoir dès le début que cette compétition allait coûter beaucoup trop. Qu'en est-il exactement?
Alors, le comité d'organisation locale a dit qu'il a 2 mois pour rendre sa copie. Mais bon, on parle de quelques 192 milliards de francs CFA environ pour l'organisation de la compétition. Donc, ils ont dit que par rapport à la CAN de 2012, ils disent que c'est un contexte différent et qu'ils avaient beaucoup plus de ressources. Maintenant, le Gabon connaît des difficultés du fait de la chute des cours de l'or noir. Donc, ils disent qu'ils s'en sont tenus strictement au cahier de charge de la CAF à ce stade-là. Et ils pensent que bon, ils ont fait les choses dans les limites raisonnables, quoi.
Voilà, c'était Timothée Donangmaï, envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon.
Studio de joie, l'Afrique est au Gabon. Ignorer, c'est l'annonce, c'est pas bon. Plusieurs pays ont pris l'avion pour pouvoir jouer au foot de nombreux talents. La passion du foot, elle est innée. Et aujourd'hui, on te donne ça. Et voir tous ces beaux pays jouer, ça ne se raconte pas, il faut vivre ça. Imagine ça, imagine ça. Donc, pas besoin de lancer.
En Guinée, les travailleurs de l'administration publique sont appelés à observer une grève de 7 jours. 10 centrales syndicales demandent au gouvernement d'ouvrir des négociations autour de la nouvelle grille des salaires des fonctionnaires. De Conakry, notre correspondant Zakaria Camara.
Au ministère de la fonction publique, on s'abstient de faire le commentaire. Les négociations sont en cours, dit-on. À quelques kilomètres de là, les organisateurs font le bilan. Parmi leurs constats, des négociations entre le gouvernement et les organisations syndicales non concernées par la grève. Une démarche qu'ils qualifient de complot. Boubacar Birobari, porte-parole.
C'est un système de cooptage que le gouvernement est en train de faire avec les autres centrales pour nous exclure de la sphère du dialogue social. C'est tout simplement une farce.
Autre grief formulé, les jours de congé que le gouvernement a accordés aux élèves et aux étudiants. pour ces syndicalistes, il ne s'agit pas d'un hasard.
C'est une décision irresponsable, c'est une fuite en avant. C'est purement et simplement ça. Parce qu'ils ont compris que nous sommes rentrés de plein fouet dans le système éducatif. Et le mot d'ordre de grève a été fidèlement suivi. Donc ça les a fait peur. Au lieu de trouver la solution pour décapiter le mouvement, c'est tout. C'est fait à dessein.
Unité d'action, c'est le nom de la plateforme regroupant une dizaine de centrales syndicales. Elle demande une correction de la nouvelle grille indiciaire. Mamadi Magasuba, secrétaire général de l'Union libre des travailleurs de Guinée.
À supposer que le fonctionnaire est noté, excellent. Il a 61 ans pour aboutir. S'il est noté bien, il a 77 ans. Alors que l'âge maximum d'un fonctionnaire qui a passé toute la carrière, c'est 65 ans. Donc jusqu'à la fin de sa carrière, même s'il a été un bon fonctionnaire, il ne serait jamais au plafond.
Après quelques heures de concertation, les organisateurs décident de poursuivre la grève.
L'unité d'action syndicale remercie et encourage l'ensemble des travailleurs de l'administration publique et communautaire et les exhorte à maintenir la mobilisation, la pression pour continuer la grève lundi, mardi, mercredi et jeudi 9 février 2017. Unis, nous vaincrons.
L'unité d'action se dit prête à faire des propositions au président Alpha Condé. Elle affirme détenir la solution au problème des salaires des fonctionnaires guinéens. Conakry, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En République centrafricaine, fin des opérations de démantèlement du camp des déplacés de l'aéroport de Bangui. Lancé en décembre dernier, ce processus a permis à plus de 28 000 personnes de regagner leurs anciens quartiers ou de nouveaux lieux d'habitation ou de leur choix. Un reportage de notre correspondant sur place, Freeman Tsipila.
L'opération Noël à la maison, lancée le 21 décembre 2016 par le président Faustin Archange Touadéra, semble être un succès. Aucune hutte n'est encore debout sur ce site, devenu aujourd'hui un grand terrain nu qui s'étend à perte de vue. Même Médecins Sans Frontières a fermé son hôpital installé pour des soins d'urgence. Emmanuel Lampayer, son chef de mission.
Nous avons fermé nos portes en lien avec l'opération de retour qui a été débutée par le gouvernement depuis maintenant plus d'un mois. De toute façon, nous gardons une large présence médicale à Bangui, notamment au niveau des maternités. Je peux citer la maternité du centre de santé urbain des Castors, dans le 3e arrondissement, la maternité MSF dans le quartier Bayandambia, dans le secteur du PK5. Nous sommes en train de finaliser la réhabilitation et la construction d'une maternité jadis existante de Waliti Emma dans le quartier d'Amekabouyeng. Et nous gardons bien sûr notre présence médicale au sein de l'hôpital général, au centre national hospitalier universitaire de Bangui, également à travers la nouvelle structure implantée dans le quartier Sika.
Les 8000 ménages ont été rasés par un bulldozer. Certains déplacés ont regagné leurs anciennes habitations. D'autres, par contre, se sont éparpillés dans la capitale. La ministre des Affaires sociales, Virginie Baïkoua, assure que les retournés seront assistés dans les quartiers.
Nous allons repartir dans les quartiers de retour. C'est à travers la fiche de suivi que nous avons mis en place avec mes chefs de secteur qui maîtrisent bien les quartiers. Nous allons repartir vers les gens avec les partenaires qui ont décidé aussi de nous accompagner dans les quartiers de retour pour tout ce qui est services sociaux de base ou encore pour les mesures d'accompagnement que nous avons identifiées et que nous allons encore compléter avec la fiche de suivi. C'est de venir vers la personne. Tu es installé là, tu vas bien, qu'est-ce qui te manque? Est-ce que vous avez de l'eau? Est-ce que vous avez les moyens pour continuer après à payer? Vous voyez, c'est tout un travail à faire après.
Alors que la majorité a déjà quitté les lieux, un petit nombre visiblement mécontent décide de rester sous le hangar de l'aérogare. Pierre Ndoini explique que sa famille n'a pas encore touché la somme promis par le gouvernement. Donc, difficile pour elle de trouver une maison de location.
Ce qui ne marche pas, c'est qu'on nous a promis une petite somme pour pouvoir se réinstaller à l'extérieur de notre départ. Malheureusement, on n'a pas eu cet argent, c'est pourquoi nous sommes restés.
Et qu'est-ce qu'on vous a dit?
On nous a fait des promesses et cette promesse, on pense que ça peut être irréalisable.
Vous pensez que vous allez rester ici pendant combien de temps, puisque tous les autres sont partis?
Ça, on n'en sait rien dessus, exactement.
Et ça vous inquiète?
effectivement, on est inquiet.
Une dizaine de ménages se trouvent dans la même situation que la famille de Pierre. Les responsables en charge de cette opération ne souhaitent pas pour le moment s'exprimer sur ce qu'ils considèrent comme des cas isolés. À l'exemple du site de l'aéroport Bangui Poko, plusieurs autres camps de la capitale sont déjà fermés. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
6 février, c'est la journée mondiale de la lutte contre les mutilations génitales féminines. À cette occasion, l'ONU et une multitude d'ONG appellent à l'abandon total des MGF. Nathalie Barge a joint au Mali le professeur Kalilou Ouattara, député et expert en chirurgie de la fistule obstétricale, qui lutte depuis 36 ans pour l'abandon de la pratique dans un pays où aucune loi ne l'interdit.
La problématique d'une loi contre l'excision au Mali est posée à plusieurs forums. Mais au Mali, on pense qu'il faut éduquer, mais personne ne veut prendre la loi.
Comment vous réagissez-vous à cela finalement? Le fait que bon, il y a quand même plusieurs pays qui ont déjà adopté cette loi, certains pays depuis quasiment 20 ans.
Je pense qu'il y a un problème qui est là. D'abord, il y a le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'est ce ministre qui peut initier un tel projet de loi. Et quand le projet de loi vient à l'Assemblée, nous en tant que médecins à l'Assemblée, nous de convaincre les députés. Mais le problème est qu'aucun ministère, ni le ministère de la Santé, ni le ministre de la Famille, de l'Enfant et de la Femme n'ont pas le courage politique de faire venir un tel projet de loi à l'Assemblée. Si moi, en tant que médecin, je vais faire une proposition de loi, les propositions de loi venant d'un député à l'Assemblée nationale du Mali passent rarement.
Alors, en tant qu'expert en chirurgie de la fistule obstétricale, qu'auriez-vous à dire sur les femmes, justement, les femmes et les jeunes filles que vous avez consultées après excision?
Ça fait déjà 32 ans que moi j'étais le chef du service du bureau de l'hôpital du Point Vieux. J'ai rencontré plusieurs cas d'excision, des excisions fraîchement pratiquées, des séquelles d'excision qu'on voit tous les jours. Et l'excision est la première cause d'incontinence d'urine chez la petite fillette au Mali. Donc, pour empêcher cette excision, il y a même des résultats qui sont obtenus. Il y a certains maires même de certaines communes qui ont interdit l'excision chez eux. Il y a certains excisés même qui ont déposé le couteau. Mais du côté du gouvernement, vraiment, c'est comme ils disent, c'est des lois sensibles. Vous avez vu, même la loi qui était là sur le genre où on disait qu'il faut 30% pour les femmes quand on doit désigner les postes, c'est cette loi à traîner. Et vous savez que la loi sur le code de la famille a été voté à l'Assemblée et le président, sous la pression des religieux, a été obligé de retirer. Donc vous voyez que le Mali fait exception et le Mali même anéantit l'effort des autres pays qui nous entourent, qui ont une loi. Parce que si on ne peut pas faire dans ces pays-là, ils viennent au Mali, ils viennent du Burkina, ils viennent de la Guinée, ils viennent de la Côte d'Ivoire, ils viennent se faire exciser au Mali pour retourner chez eux. Donc vous voyez, c'est une situation déplorable qui est là. Moi-même, en tant que médecin, combien de fois je suis parti présenter des exposés sur les séquelles de l'excision.
Voilà, c'était le docteur Kalilou Ouattara, chirurgien, urologue et député au Mali. Fin de cette édition, à la mise en onde de Joselle Morissin, présentation Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité en continu. Bonne soirée à tous et à bientôt.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.